Radio Prague, les informations.
Le gouverneur de la Banque nationale tchèque quittera son poste en juin. Václav Klaus a nommé une nouvelle ministre de l'Environnement et ouverture du Festival du film européen à Prague. Le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Zdeněk Toma, a annoncé ce jeudi qu'il quitterait son poste le 30 juin prochain, en dépit du fait que son second mandat devait s'achever en février 2011, en même temps que le mandat de la plupart des membres de la direction de la banque. Il a fait part de sa décision au président de la République mardi. Zdeněk Toma a justifié ainsi son départ anticipé par le besoin de stabilité. Je cite, « D'après une expérience similaire il y a 6 ans, je réalise qu'il serait mieux pour la Banque nationale tchèque que la période d'incertitude liée au remplacement de sa direction soit la plus courte possible. » Fin de citation. Zdeněk Toma est à la tête de la Banque nationale depuis l'an 2000. Deux délégations tchèques devraient participer aux obsèques des victimes du crash de l'avion du président polonais Lech Kaczynski. L'une se rendra samedi à Varsovie, tandis que l'autre, à la tête de laquelle se trouvera le président Václav Klaus, se rendra dimanche à Cracovie. Une délégation de l'ODS, dirigée par l'ancien premier ministre Mirek Topolanek, qui partageait en bien des points la ligne politique du président polonais défunt, devrait également se rendre à Varsovie. À noter encore que samedi 17 avril à midi, les 4 chaînes de la télévision tchèque vont interrompre leur programme pour observer une minute de silence. Ce jeudi après-midi, le président Václav Klaus a nommé le nouveau ministre de l'Environnement, ou plutôt la nouvelle ministre, proposée par le premier ministre Jan Fischer. Ruth Biskova, jusqu'ici vice-ministre de l'Environnement, remplace ainsi Jan Dusik, délégué par le Parti des Verts, qui a récemment donné sa démission en raison d'un litige l'opposant au chef du gouvernement concernant la modernisation de la centrale nucléaire de Prunajov. À partir de ce jeudi, Prague accueille pour la 17e fois le Festival du film européen. Ce festival propose une sélection des meilleurs films issus des pays appartenant à l'Union européenne, ou aspirant à y entrer. Au total, 38 films de 28 pays différents sont proposés aux spectateurs dans les salles de cinéma pragoises. À l'affiche du festival, on trouve plusieurs films français, notamment Home avec l'actrice Isabelle Huppert, Khamsa de Karim Dridi, ou encore L'affaire Farewell de Christian Caron avec Guillaume Canet et le réalisateur Emir Kusturica qui se retrouve pour une fois devant la caméra. Le festival se tient à Prague jusqu'au 22 avril. Il se poursuivra ensuite à Brno. On passe à un mot de sport. Vainqueur du français Richard Gasquet au deuxième tour du tournoi de Monte-Carlo, le tchèque Tomáš Berdych, 15e au classement ATP, a été éliminé en 8e de finale ce jeudi. Il a dû s'incliner face à l'espagnol Fernando Verdasco en 3-7, 5-7, 6-3, 6-2 sur le court de Monte-Carlo. Ce tournoi est le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison. On finit avec un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Iréna, la météo devrait s'améliorer. On profitera d'un ciel dégagé sur l'ensemble du pays et les températures seront en hausse en cette fin de semaine entre 11 et 15 degrés pour les maximales. Le thermomètre devrait continuer à grimper pendant le week-end qui s'annonce ensoleillé. Voilà une bonne nouvelle. C'est ainsi que s'achève le bulletin d'information de Radio Prague présenté par Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information très complet puisqu'il y avait même du sport. Et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité d'abord marquée par l'amendement à la loi sur les jeux de hasard. Un nouvel amendement adopté mercredi par les députés, selon lequel les communes pourront bientôt avoir le droit d'autoriser et de décider de l'emplacement des casinos et autres salles de jeux d'argent. Une évolution importante dans un pays parfois présenté comme le Las Vegas européen. Beroune, vous ne connaissez sans doute pas, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Prague. Cette petite ville a été désignée ville historique tchèque de l'année 2009. Sa présentation dans quelques instants. Et puis la fin de ce magazine sera marquée par une autre présentation, celle du nouveau film documentaire intitulé « Un œil au-dessus de Prague », un film qui sort en salle et qui traite du projet de bibliothèque nationale qui a tant fait parler mais qui n'a jamais été réalisé. Mais avant de développer tous ces titres, permettez-nous de vous souhaiter une très bonne écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, un nouvel amendement à la loi sur les jeux de hasard a donc été adopté par la Chambre des députés mercredi. Selon cette nouvelle réglementation, les communes pourraient avoir le droit d'autoriser ou non et de décider de l'emplacement des casinos et autres salles de jeux d'argent sur leur territoire. Si l'amendement est également adopté par le Sénat, il pourrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Il y a un peu plus de 5 ans de cela, Radio Prague avait présenté la République tchèque comme le Las Vegas de l'Europe. À l'époque, en 2004, le pays détenait en effet ni plus ni moins le record d'Europe du nombre de casinos par habitant, avec un établissement et demi pour 100 000 personnes. 3 ans plus tard, la situation n'avait guère évolué puisque Radio Prague, toujours, présentait cette fois la République tchèque comme le paradis des jeux de hasard. Une situation qui faisait le malheur des maires de certaines communes qui se plaignaient de n'avoir aucun contrôle sur la prolifération des casinos et salles de jeux d'argent. Certains avaient alors lancé l'initiative baptisée l'Association des villes et des communes contre les jeux de hasard, une initiative également motivée par l'argent croissant dépensé chaque année par les Tchèques. Ainsi, en 2008, pas moins de 130 milliards de couronnes en moyenne, 5 milliards d'euros sont sortis de leur porte-monnaie pour être joués ou pariés. Jusqu'à présent, les communes disposent d'un droit d'interdiction ou de limitation d'activité uniquement sur les anciennes machines à sous dites classiques, omniprésentes un peu partout dans le pays et qui ont englouti près de 2,5 milliards d'euros en 2008. En revanche, elles n'ont aucun contrôle sur les machines vidéo, dans lesquelles pourtant des sommes d'argent bien plus importantes que celles jouées dans les machines classiques peuvent être perdues par les joueurs. Ces machines vidéo sont du ressort du ministère des Finances. Pour autant, le ministre Eduard Janota est favorable à ce que leur autorisation revienne également aux communes.
Je reçois régulièrement des critiques de nombreux maires qui se plaignent que leur commune se transforme en deuxième Macao. C'est pourquoi je suis favorable à ce qu'ils puissent décider eux-mêmes d'autoriser ou non l'ouverture de ces salles de jeu.
S'il pourrait donc s'agir d'une évolution relativement importante dans l'administration des jeux d'argent, cet amendement est cependant loin de satisfaire tout le monde et surtout pas forcément les sociétés détentrices des droits des divers jeux de loterie et de paris, essentiellement sportifs. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là de la première modification de la législation sur les jeux de hasard depuis 1998, un premier pas aussi en vue de la nouvelle loi sur les jeux de hasard que prépare actuellement le ministère des Finances, avec pour objectif son entrée en vigueur en 2012. La ville de Beroun, à une 20aine de kilomètres au sud-ouest de Prague, est le nouveau lauréat du titre de ville historique de République tchèque pour 2009. Chaque année depuis 1995, la distinction, qui s'accompagne d'une dotation d'1 million de couronnes, récompense le site historique protégé qui s'est le plus distingué dans l'entretien de son patrimoine. La remise du prix a lieu traditionnellement la semaine qui précède la journée internationale des sites historiques programmée le 18 avril. Plus de détails avec Jarka Gisibelova.
C'est la salle espagnole du château de Prague qui a accueilli mardi la cérémonie. 3 villes sélectionnées par l'association des sites historiques de Bohême et de Moravie étaient encore en lice. Uherské Hradiště en Moravie du Sud, Jilemnice en Bohême du Nord et Beroun en Bohême centrale. Le président de l'association, Petr Sedláček, a mis fin au suspens.
Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městí památkových rezervací a tudíž titul historické město České republiky 2009 získává město Beroun.
Le prix pour la meilleure réalisation du programme de rénovation des réserves protégées et le titre de ville historique 2009 sont attribués à Beroun. Durant le XXe siècle, l'image de Beroun a beaucoup souffert de l'industrialisation poussée et des démolitions de nombreux bâtiments historiques. Ceux qui l'ont connu avant 1989 n'arrivent pas à croire que c'est cette même ville de Beroun qu'ils peuvent apprécier aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué son maire, Yeji Besre, lors de la cérémonie, tout en se félicitant du fait que cette distinction récompense les 17 années de travaux de restauration menés.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris part à la renaissance de Beroun après sa dévastation socialiste. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont aidés à reconstruire la ville après les inondations catastrophiques de l'été 2002. J'accepte ce prix avec joie et humilité, car notre potentiel historique ne peut égaler celui de villes comme Telč ou Kutná Hora. Nous avons toutefois l'immense opportunité de pouvoir nous laisser guider par le slogan auquel nous sommes en train de donner vie. Beroun, ville royale moderne.
Beroun est une ville de 17 000 habitants située sur le confluent des rivières Litavka et Beronka. Sa première mention écrite remonte à 1265. Un système de remparts édifié au XIIIe siècle l'arrange parmi les villes fortifiées d'Europe. Beroun est aussi une ville royale grâce à un décret de 1303 qui lui garantissait les mêmes droits d'administration que ceux dont bénéficiait alors la vieille ville de Prague. Beroun est le point de départ de deux réserves naturelles protégées, le karst tchèque et les forêts de Křivoklát. Il est aussi un important centre de l'industrie légère. Sa nouvelle zone industrielle est le siège de sociétés comme Heidelberg Ciment, groupe qui compte parmi les premiers employeurs du pays. Beroun est jumelé avec les villes de Rysjevik aux Pays-Bas, de Goslar en Allemagne et de Bzeg en Pologne. Trois villes qui l'ont aussi beaucoup aidé après les inondations de 2002. Le maire de Beroun, Jiří Besser, n'a pas manqué d'inviter tous les intéressés à venir visiter la ville.
Venez quand vous voulez, mais si je peux vous recommander les meilleurs moments, l'échéance la plus proche est celle des 8 et 9 mai, où l'on organisera les marchés printaniers, puis ce sera le deuxième week-end de septembre, avec pour la 14e fois déjà cette année, le grand marché de céramique et de poterie.
Les traditionnels marchés de céramique de Beroun qui renouent avec la production médiévale qui a fait la réputation de la ville seront aussi l'occasion de fêter les journées du patrimoine européen.
Oko nad Prahou, ou un œil au-dessus de Prague, tel est le nom du projet de nouvelle bibliothèque nationale dessiné par l'architecte britannique d'origine tchèque Jan Kaplický. Très controversé et objet de nombreuses tergiversations et retournements médiatico-politiques, le projet futuriste de l'ancien émigré tchèque avait finalement été abandonné après de nombreuses polémiques. Cette histoire est aujourd'hui retracée dans un film documentaire éponyme, Anne Claire Veluire.
Oko nad Prahou, ou un œil au-dessus de Prague, c'est le nom du projet de nouvelle bibliothèque nationale dessiné par l'architecte britannique d'origine tchèque Jan Kaplický. Très controversé et objet de nombreuses tergiversations et retournements médiatico-politiques, le projet futuriste de l'ancien émigré tchèque avait finalement été abandonné après de nombreuses polémiques. Cette histoire est aujourd'hui retracée dans un film documentaire éponyme. Tout commence le 2 mars 2007. Le cabinet d'architecture fondé et dirigé par Jan Kaplický remporte le premier appel d'offres international lancé par la ville de Prague pour la construction d'une nouvelle bibliothèque nationale. Kaplický, architecte reconnu internationalement, exulte et se réjouit d'être à l'origine d'un projet d'une aussi grande envergure à Prague, sa ville natale, qu'il a quittée en 1968. Pourtant, deux mois après la décision du jury, le président Václav Klaus émet des critiques publiques sur le projet, qui a déjà acquis le surnom de pieuvre ou de blob. Trop futuriste, trop coloré, trop haute, cette nouvelle bibliothèque construite sur l'esplanade de l'Etna, à moins de 500 mètres du château de Prague, menacerait, selon ses détracteurs, de défigurer la vue imprenable sur toute cette partie historique de la capitale tchèque. L'affaire de la bibliothèque nationale va alimenter les polémiques jusqu'à l'abandon définitif du projet en janvier 2010, tout juste un an après la mort soudaine de l'architecte. Pourtant, tous ces ingrédients dramatique était loin d'être inscrit dans le scénario de ce film documentaire. On écoute Olga Špatová, la réalisatrice.
Že jsme chtěli mapovat, jak vzniká ta stavba, protože tenkrát to vyšlo vlastně v novinách jako taková.
Nous voulions retracer l'histoire de cet édifice. Au début, c'est sorti dans les journaux comme une belle nouvelle et une chose acquise que Kaplický allait construire cette bibliothèque. Quand tout allait encore bien, je me demandais ce que je pourrais mettre dans ce film pour le rendre un peu plus dramatique. Je ne voulais pas faire un portrait de Jan Kaplický parce que ça avait déjà été fait. Mais le scénario a changé tout seul. Et ce qui était intéressant, c'est que tout le monde parlait d'architecture. Mais aussi comment se comportent les gens vis-à-vis des émigrés qui reviennent et comment se comportent les hommes politiques avec les citoyens. Et ce thème, ces relations humaines, c'est ce qui compte le plus dans ce que j'ai filmé. Je ne perçois pas ce film comme une lutte pour imposer la bibliothèque, même si je le souhaite, mais plus comme un film sur les gens et leurs relations.
Le casting du documentaire rassemble de nombreuses personnalités du monde culturel et médiatique. Beaucoup sont des partisans du projet, comme Václav Havel, Vlastimil Ježek, ancien directeur de la Bibliothèque nationale, et même, pourrait-on dire, Pavel Bém, le maire de Prague, qui avait affiché son soutien au projet avant de se rétracter quelques semaines plus tard. À l'évidence, le film défend inconditionnellement la bibliothèque de Kaplitsky et fustige l'esprit conservateur de ses opposants, un jugement un peu sévère, tant l'extravagance de ce bâtiment au cœur d'une ville exceptionnellement préservée fait logiquement débat, et ce jugement n'est contrebalancé que par la présence de Milan Knijak, directeur de la Galerie Nationale, généralement connu pour son sens de la provocation. Quel que soit l'avis que chacun peut avoir sur cette fameuse pieuvre, le film révèle un attachement sincère de l'architecte disparu pour ce projet qui était plus qu'un simple projet professionnel. Il invite aussi à s'interroger sur l'importance et les enjeux du développement urbain. Il est possible également que le film essaie de relancer la polémique sur l'avenir de la Bibliothèque nationale. Zdeněk Lukeš, architecte et historien de l'architecture, reste sceptique sur la concrétisation du projet. On l'écoute.
Je connais des exemples où des édifices d'architectes qui étaient déjà morts ont finalement été construits, mais ce sont des cas où le projet était déjà complètement réalisé. À Prague, il y a l'exemple de la faculté de droit de Jan Kotiera, dont le projet a été finalisé par son cabinet. Mais c'était déjà prêt, il y avait un terrain, il n'y avait pas de conflit, pas de questions politiques. Il y a aussi l'exemple de la Grande Arche de la Défense à Paris, tandis que dans notre cas, l'auteur est mort dans la première phase du projet, dans la phase d'étude, et jusqu'à la finalisation du projet, le chemin est encore trop loin, surtout pour un bâtiment comme celui de la bibliothèque.
Le film documentaire Oko nad Prahou sort le 15 avril dans les salles de cinéma tchèques. Il sera également projeté dans le cadre du Festival du film européen.
Voilà, c'est donc avec ce film Oko nad Prahou, si vous préférez en français Un œil au-dessus de Prague, que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention et de bien vouloir rester en notre compagnie encore quelques instants, et plus précisément en la compagnie de Yarka Gregorova.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Yarka Gregorova.
Déjà 60 ans se sont écoulés depuis la sinistre opération K, organisée en avril 1950 par la police secrète de l'État et les milices populaires sous la direction des hauts fonctionnaires du Parti communiste tchécoslovaque. L'objectif était la liquidation des ordres catholiques masculins. Au cours de l'opération, près de 2400 moines ont été arrêtés, le patrimoine immobilier et mobilier des institutions catholiques confisqués. L'opération a fait suite à des procès injustes des dignitaires de différents ordres. À l'occasion de cet anniversaire célébré les 13 et 14 avril derniers, notre émission d'aujourd'hui sera consacrée au père Jan Josef Kohl, Ordo Sancte Benedicte, l'une des victimes de l'opération K, basée actuellement au couvent de Brzeznów de Sainte-Marguerite. Le père Jan Josef Kohl est né le 21 février 1928 dans la région de Náchod, en Bohême du Nord-Est, dans une famille catholique de fermiers. Ils étaient 8 enfants, dont 2 sont décédés en bas âge. Leur éducation a été très influencée par les moines bénédictins installés au sein de la paroisse locale. Dès son plus jeune âge, Jan Josef entendait déjà clairement la voix du Seigneur, mais l'idée de suivre le chemin de l'éternité ne lui est venue que plus tard. Peu après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ferment les écoles et il ne peut donc pas suivre d'études. Il fait un apprentissage d'aide-comptable dans la petite boutique du village et vers la fin de la guerre, il travaille à l'usine de production de conducteurs électriques, la Hubkawerke. Enfin, la guerre est finie. Jan Józef ne perd pas de temps et dès le 1er septembre entre à l'Académie du commerce, donc l'école de commerce de Narod, où il suit aussi des cours de catéchisme à l'époque obligatoire. C'est précisément à cette époque que Jan Józef Kohl décide définitivement de devenir prêtre. Jan Józef Kohl.
Lorsque je faisais mes études à l'Académie du commerce, école de commerce à Náchod en 1947, j'ai participé aux exercices spirituels à la Sainte Colline près d'Olomouc, et c'est en ces lieux saints que je décidais de devenir prêtre. À cette époque, j'avais 19 ans. Il faut dire que je ne suis jamais sorti avec une jeune fille. J'avais beaucoup de copains et copines, mais les relations étaient toujours amicales. J'étais effronté, mais sans plus. Je ressentais quelque part au fond de moi le désir de devenir prêtre.
Après le baccalauréat, il passe ses vacances chez ses parents et les aide aux travaux champêtres et de ferme. Le 14 septembre 1949, jour de la fête de l'érection de la Sainte Croix, il présente à l'abbé du couvent de Bjevnov, Jan Anastas Opasek, sa demande d'admission à l'ordre des bénédictins. Il choisit l'ordre de Saint-Benoît pour la simple raison que la cure de son village natal était gérée par les bénédictins. Les dignitaires ecclésiastiques craignent les répressions dont pourraient être victimes les monastères et, par précaution, ils logent le jeune Jan Józef dans une maison de jardinier, pour qu'il puisse si besoin échapper aux arrestations. Le 19 septembre 1949, Jan Józef est témoin de l'arrestation de l'abbé Opasek. Jan Józef Kohl témoigne de l'arrestation de l'abbé. On l'écoute.
14 policiers
Ils étaient 14 policiers à l'arrêter. Ils l'ont amené à la prison de Pankrac et il a également subi des interrogatoires à Rousigné. L'abbé Opasek n'a pas été torturé physiquement, mais psychologiquement, ce qui peut parfois être pire. Par exemple, on lui lançait la nourriture comme un chien et il était obligé de manger avec les mains. Comme il le disait lui-même, seule la foi et les prières de sa mère le maintenaient en vie. Le 2 décembre 1950, victime d'un procès inique, il a été condamné à perpétuité. Le procureur lui a dit que s'il n'avait pas été prêtre, il aurait été pendu.
Jan Józef Kohl est ensuite transféré à nouveau pour des raisons de sécurité au couvent d'Emmausi à Prague, où il se prépare à l'admission à l'ordre de Saint-Benoît. En novembre 1949, il devient membre de l'ordre sous le nom de Jean-Baptiste. Mais il ne jouira pas très longtemps de cette faveur. Dans le cadre de l'opération K, il est arrêté fin avril 1950 et transféré au couvent de Heinitze, où se trouvent des moines d'autres ordres, mais surtout des bénédictins. Il travaille comme aide-ouvrier couvreur. Certains moines fabriquaient des bijoux fantaisie, d'autres des jouets en bois ou plaçaient des opercules de liège dans les capuchons pour fermer les bouteilles de bière. Les conditions de vie sont relativement supportables et surtout les moines ne sont pas torturés. Fin août 1950, on propose aux moines de suivre des études au séminaire général, géré par les communistes. Évidemment, la majorité refuse et début septembre, le père Jan est transféré aux brigades techniques du travail connues sous le nom de PTP. Il travaille très dur sur des chantiers, par exemple à la construction d'un aéroport militaire, puis dans des mines de charbon. Il est libéré après 3 ans et demi de travaux obligatoires, le 31 décembre 1953. Il essaye ensuite de trouver du travail, mais du fait de sa formation de prêtre, il se heurte systématiquement à des refus. Il trouve finalement du travail au sein de l'armée en tant qu'ouvrier à la construction des routes. Et c'est encore grâce à l'armée qu'il obtient un poste de comptable dans une maison de repos à Spindlerhofmin, dans les Monts des Géants. Il est à noter que l'armée avait par rapport au régime totalitaire une position spécifique et une attitude modérée. Mais les vérificateurs des capacités politiques et professionnelles le retrouvent même en montagne et le père Jan est renvoyé. Il retourne dans son village natal où il trouve du travail comme usineur de métaux tout en exerçant la profession de sacristain et maître de chapelle au sein de l'église locale. Le père Jan Józef Kohl a joué un grand rôle dans l'organisation de la réparation des toits des églises et des chapelles de la région. Il étudie aussi le chant chez Yarmila Hassan Abdel Wahab, ce qui lui permet de nouer des liens avec d'autres chanteurs et solistes. Il profite de cette occasion pour les inviter dans son village natal, Polizena de Metui, et pour les faire chanter à la tribune d'orgue. Et c'est avec ses propres moyens qu'il achète un harmonium dont il fait don à l'église. Ses activités sont multiples. Il participe entre autres aux recherches archéologiques du presbytère de l'église conventuelle à Polizena de Metui et s'occupe de la décoration des autels à l'occasion des fêtes de l'église. Début octobre 1968, le père Jan-Josef Kohl entreprend des études à la faculté de théologie de l'université Charles à Litoměřice. Le 23 juin 1973, il est consacré prêtre par l'archevêque et cardinal František Tomášek. Il est alors âgé de 45 ans. Mais il n'a pas l'autorisation des autorités communistes nécessaires pour exercer sa noble mission. Il débute donc sa mission de prêtre à Hradec Králové comme sacristain et au bout de 2 ans, il est autorisé à exercer la mission de chapelain. Lorsqu'en 1990, une partie des bâtiments du couvent de Břevnov est restituée, l'abbé Anastas Opasek le fait revenir au couvent où il réside encore aujourd'hui. L'événement qui a le plus marqué le père Jan-Josef Kohl au cours de ces dernières décennies a été sa rencontre avec sa sainteté le pape Jean-Paul II le 26 avril 1997, à l'occasion du millénaire de Saint Adalbert.
Et c'est déjà la fin pour cette fois du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Pour cela, c'est très simple, c'est le www.radio.cz. Sinon, et c'est encore mieux, rendez-vous près de vos postes dès demain, même heure, même fréquence. À très bientôt donc. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.